Et avant de retrouver Jean-François Baudet, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Allez, le rugby à la une de cette page sport et de ce magazine, Mickaël Jeuneschi, on va parler du Stade Toulousain qui s'est imposé sur le Stade Français lors du dernier match de la 13e journée de Top 14.
Oui, c'était l'affiche du jour. Toulouse qui s'adjuge la victoire dans le choc des stadistes, 38 à 23, avec notamment deux essais du Calédonien Peato Mauvaka, rentré en cours de partie. Encore une fois, le Stade Toulousain s'est montré intraitable grâce à ce succès bonifié. Toulouse reprend au passage la tête du championnat de France, juste devant l'Union Bordeaux-Bègle, pour terminer 2024 en leader du Top 14. Mais gare à ne pas crier victoire trop vite, c'est ce que dit Florent Loctef, le préparateur physique des Toulousains.
Comptablement parlant, forcément que c'est très positif. Après, dans le contenu, il y a des choses à revoir. Bah, ça fait toujours plaisir d'être en haut. Après, on n'a strictement rien gagné. C'est très anecdotique. Mais ça vient conclure l'année 2024 qui est forcément belle, et c'est bien d'avoir repris le championnat après les deux titres de manière relativement sérieuse, d'avoir pris des points. Je retiendrai surtout qu'on a pris des points à tous les matchs, même quand on a perdu, on a pris des points de bonus, on s'accrochait partout. Dans le contenu, voilà, il ne faut pas qu'on se trompe trop.
Et parmi les autres résultats du jour, ce nul entre le Racing 92 et le Lyon Olympique Universitaire. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, 25 partout. Un match qui marquait les retrouvailles pour Romain Taoufifénois sous les couleurs du Racing face à son ancien club lyonnais. Autre résultat, Perpignan qui l'a emporté face à La Rochelle, 21 à 13. On rappellera du week-end les succès de Pau sur le promu Vannes, 48 à 24, de Bayonne sur Castres, 33 à 12, de Montpellier à Clermont, 22 à 18, et de l'Union Bordeaux-Bègle, donc face à Toulon, 21 à 17. Alors au classement, Toulouse est donc en tête pour un petit point de mieux que l'Union Bordeaux-Bègle. Toulon est troisième à égalité de points avec Bayonne. Clermont est en cinquième position. Le Stade Rochelais complète le top 6. En bas de tableau, les Bretons de Vannes sont toujours lanterne rouge.
On va passer au football avec le Boxing Day sur les pelouses européennes.
Et la 19e journée du championnat d'Angleterre, cette victoire aujourd'hui de Manchester City sur Leicester, 2 buts à 0. Et de son côté, Tottenham qui n'a pu faire mieux qu'un nul face à Wolverhampton, 2 buts partout. Enfin, Liverpool s'est imposé à West Ham, 5 buts à 0, un festival du leader de la Première Ligue. Et puis, en Italie, Naples a remporté un succès précieux face à Venise, 1 à 0, pour grimper à la deuxième place du Calcio. La Juventus et la Fiorentina ont fait match nul, 2 buts partout. C'était donc les derniers matchs du jour pour ce Boxing Day en Italie.
Une double actualité voile dans ce magazine, et on va commencer évidemment par le Vendée Globe.
Ouais, duel jusqu'au bout pour les deux hommes de tête, Johan Richomme sur Paprec Arkéa et Charlie Dalin à bord de Massif. Richomme semblait avoir pris un léger avantage ces derniers jours, mais voilà que Dalin rattrape son retard au fil des heures. Au milieu de l'Atlantique, au large du Brésil, les deux skippers sont au contact. Alors ce matin encore, ils n'étaient séparés que par 70 km, et au tout dernier pointage, l'avance de Richomme n'était plus que de 48 km. C'est dire si l'écart se réduit à grande vitesse. Dalin mais les bouchées doubles, on pourrait avoir le droit à un bras de fer jusqu'au terme de cette épreuve, à la conquête d'un potentiel record et surtout d'une victoire de prestige. Nous en sommes à plus de 49 jours de course. Le leader est encore à 9100 km des Sables d'Olonne, la ligne d'arrivée.
Et puis la voile dans la région, dans le Pacifique, avec la fin de la Sydney Hobart pour les Calédoniens de Pulpito.
3 jours, 20 heures, 46 minutes et 11 secondes exactement d'aventure pour Pulpito MLS FCD qui a rallié Hobart dans la matinée pour nous. Décompte provisoire dans l'attente des calculs éventuels de pénalités, rattrapage lorsque le classement définitif sera dévoilé. Le navire de David Tréguier a terminé cette épreuve d'une rare difficulté. Les Calédoniens qui pointent au classement non officiel, je le répète, à la 8e place du classement IRC3, 3e dans la catégorie des navires Sydney 38 sur 6 engagés seulement et 4 navires de cette classe qui ont terminé l'épreuve. On rappelle tout de même que plus de 100 voiliers étaient au départ, mais que 30 participants ont déjà dû abandonner. Deux navigateurs, par ailleurs, ont également trouvé la mort dans cette 79e édition. C'est donc déjà une grande joie pour l'équipage de David Tréguier qui nous a fait vivre plusieurs reprises sur notre antenne ce périple dans les eaux du Pacifique Sud. Je rappelle que le premier navire avait franchi la ligne d'arrivée ce week-end. Le super maxi australien Low Connect, tenant du titre, il a rallié Hobart en un jour, 13h et 35 minutes de course.
On en vient au sport en Calédonie. Ce sera une dominante de la semaine. Il a commencé ce week-end, c'est le BN l'ANC Tennis Open au Wentoro.
Ouais, la fête du tennis à Nouméa et ça ne pouvait que bien commencer ce dimanche. 6 matchs de qualification étaient au programme. Le Tahitien Antoine Voisin qui s'est incliné contre le métropolitain Théo Haribagé. Les spectateurs ont surtout eu droit à une démonstration hier soir du Calédonien d'adoption Liam Branger. Il a écrasé l'Australien Adam Taylor. 54 minutes de match. Victoire 6-0, 6-2. Un beau succès devant sa famille et ses amis. Hier soir, il ne faisait part de sa réaction.
Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça m'apporte beaucoup d'énergie. Il y a ma famille, en effet, et puis des amis. Donc franchement, c'est super sympa. Beau public aujourd'hui. Il y a pas mal de monde. J'espère que demain, ils seront au rendez-vous aussi. Et puis voilà, j'espère faire le meilleur demain. Donc maintenant, match demain. Je vais me préparer au mieux, récupérer. Et puis, allez, hein. Jouer dans le tableau final, ce serait vraiment incroyable de pouvoir rentrer et de jouer contre des très bons joueurs. Donc franchement, j'ai donné le maximum demain. Et ouais, je vais tout donner.
Voilà, en revanche, Jalan Sanawimon, lui, est passé tout près de l'exploit lors des qualifications à 16 ans. Il a fait plus que tenir tête à l'Australien Cade Byrrell. Il s'est finalement incliné en 3-7, 6-1, 7-5, 6-3. Aujourd'hui, 12 matchs sont au programme sur les courts du Wentoro. Les finales des qualifications, mais aussi le début du tableau principal en simple, avec l'entrée en lice notamment d'un autre Calédonien, Erimana Kurt, face au Danois August Holmgren. Liam Branger, lui, fera face à un autre Australien, Matt Ulm. En double, Benoît Paire sera lui associé à Jalan Sanawimon contre un duo australo-américain, Moerani Buzig, André Ilagan. L'ambiance est bien sûr au rendez-vous et n'oubliez pas que vous pourrez vous tenir au courant, vivre au plus près ce tournoi tous les soirs sur RRB dans notre émission spéciale à 17h en direct des cours du Wentoro.
Allez, on va terminer ce magazine des sports avec Christophe Dabin, le président du CTOS qui est notre invité ce midi. L'occasion avec lui de faire un point, Mickaël, sur l'impact global de la crise sur le mouvement sportif en 2024, mais aussi parler des perspectives de cette année 2025.
Oui, Christophe Dabin, président du CTOS, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi pour ce dernier MAC des sports de l'année 2024, une année évidemment qui a été marquée, comme pour l'ensemble de la vie en Calédonie, par la crise insurrectionnelle, désormais la crise économique. Désormais, avec un peu de recul, où on en est, on va dire, du bilan qu'on peut faire de l'impact sur l'ensemble du mouvement sportif, de toute cette situation, compétition à l'arrêt, la pratique qui a été interrompue pendant plusieurs mois. On en est où, en tout cas, à l'heure de dresser un petit peu le débrief de ce qui s'est passé?
On va dire qu'on arrive petit à petit à un retour à la normale. C'est vrai que l'année 2024 avait très bien commencé, avait très bien débuté. Je veux dire, tout se passait, je veux dire, correctement. Et puis, tous les plannings, tout le calendrier avait été fixé. Malheureusement, bon, le 13 mai est arrivé. Automatiquement, dès le 14, tout s'est arrêté. Et ça s'est arrêté pendant plusieurs mois, on a eu l'occasion d'en discuter. Et puis au fur et à mesure, donc, quand les conditions un petit peu de sécurité sont revenues et que les bénévoles, parce que je pense qu'il faut aujourd'hui beaucoup parler des bénévoles, hein, et des dirigeants, qui ont retroussé les manches, qui ont fait ce qu'il fallait pour petit à petit que l'activité sportive elle reprenne. Elle a repris d'abord tout simplement dans les clubs, hein, avec un petit nombre. Et au fur et à mesure, ben, je veux dire, les clubs ont poursuivi. Ensuite, les ligues ont remis en place quelques activités. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ensemble des activités des calendriers avaient été totalement stoppées. Mais là, je veux dire, on voit depuis quelques mois maintenant que la situation, elle revient. Mais ça va prendre encore, malgré tout, un certain nombre de temps pour qu'on revienne à une situation normale.
Alors, évidemment, les données chiffrées, ça mettra encore longtemps, hein, à avoir une estimation totale, l'impact économique, l'impact du nombre de licenciés dans les clubs. Mais le sentiment déjà, les retours auprès des ligues, auprès des comités qui eux-mêmes enregistrent les retours auprès des dirigeants sportifs, quel est-il? Il y avait cette tentation pour beaucoup de tout simplement jeter l'éponge. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une lueur d'espoir. C'est quoi le sentiment général?
C'est vrai qu'après tout ce qu'on a vécu, on a, je pense, un nombre important de bénévoles qui se sont posé la question en disant « Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de continuer ?» Et puis, comme dans d'autres secteurs, il y a cette résilience. C'est-à-dire que personne ne baisse les bras. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans le mouvement sportif. On a tout le monde qui a retroussé les manches, qui a fait ce qu'il fallait. Et c'est vrai qu'on a, nous, un indicatif, parce qu'on parle beaucoup sur l'activité, sur le nombre de licenciés. On a un indicatif, nous, qui est le passeport sportif qu'on met à disposition donc, des jeunes qui avaient très bien commencé sur les quatre premiers mois, qui est donc mois de mai, juin, juillet, qui était totalement à zéro, et là qui a repris depuis le mois de août-septembre. Et donc, on va avoir là un nombre important de licenciés aidés. Mais c'est vrai que la première indication va être, donc, quand on va avoir les chiffres de l'ensemble des disciplines, pour savoir exactement quelle va être la perte de nombre de licenciés donc, en 2024. Et on sait que cette perte, elle va être malgré tout importante. Maintenant, il ne faut pas rester sur ça. Je crois qu'il faut regarder. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit depuis plusieurs mois de nombreuses manifestations qui sont organisées. Vous parliez tout à l'heure donc, du challenger de tennis. Ça montre aujourd'hui que les activités reprennent. On a eu la dernière fois encore un super tournoi de basket 3-3 sur les quais Jules Ferry. Donc aujourd'hui, l'activité, elle reprend. Elle reprend petit à petit. Mais je crois que c'est ça qu'il faut regarder, c'est cette positivité et cette lueur d'espoir qu'on a pour l'ensemble de nos sportifs.
Christophe Dabin, on le sait, les Calédoniens, quel que soit leur sport, ont besoin de se confronter aussi aux athlètes de la région ou de l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie pour gagner en compétences, en maturité, progresser dans leur sport. Ça n'a pas été possible cette année encore. Il y a un certain nombre de déplacements qui ont dû être évidemment annulés ou de délégations étrangères qui devaient venir, qui ne sont pas venues. Est-ce que là-dessus, en 2025, il y a des horizons qui se débouchent un peu? Est-ce que vous pensez que les choses vont bouger?
Alors les choses, malgré tout ce qui s'est passé en 2024, il y a eu quand même une activité à l'extérieur du territoire qui a été malgré tout, soutenue. On va regarder les deux équipes de hand qui sont parties à Tahiti. On a eu le judo qui était aussi parti à Tahiti. Et on a eu, malgré tout, parmi nos sportifs en individuel, qui ont fait énormément de compétitions à l'extérieur et qui sont revenus avec des titres qui étaient, avec des résultats qui étaient très importants. Donc, malgré le fait que l'activité s'est arrêtée, qu'il était difficile de s'entraîner, qu'il était difficile aussi parfois de se déplacer, on a quand même eu en 2024 de grandes, grandes satisfactions. Et puis, je pense qu'on ne peut pas laisser de côté les Jeux olympiques et paralympiques, hein, qui, malgré tout, ont laissé de belles images. Mais c'est vrai que pour 2025, moi, j'attends un petit peu, parce que là, il y a cette phase un petit peu des fêtes où les disciplines sont un petit peu à l'arrêt. Donc, il y a ces vacances. Et normalement, de toute façon, je pense que l'ensemble des disciplines vont reprendre tranquillement, je veux dire, leur calendrier. Et je pense qu'en 2025, on va revenir donc, dans une situation quasi normale. La seule interrogation qu'on a aujourd'hui, ça sera sur le financement de l'ensemble des activités. Parce que au-delà de l'arrêt des activités, je pense que le mouvement sportif, on a évoqué même le mouvement associatif dans son ensemble, a été extrêmement impacté par la situation avec des baisses de subventions. Mais à nous, après, de voir de quelle manière on peut rebondir et puis de quelle manière on peut malgré tout lancer des activités. Et puis n'oublions pas qu'en 2025, nous aurons les mini-jeux de Palau. Et ça reste un des objectifs du CTOS.
Les mini-jeux, on va y revenir dans un instant, mais justement, vous l'avez souligné, certes, si les conditions pour la pratique sont revenues quasiment à la normale, hein, sur en tout cas la plus grande partie du territoire, le CTOS, vous êtes aux premières loges pour voir encore les problèmes qui demeurent, les problèmes d'ordre politique et les problèmes d'ordre financier, budgétaire, hein, qui s'imposent. Quel est le message que vous passez à tous les dirigeants sportifs quand vous savez que pour 2025, ça ne s'annonce pas rose, encore une fois?
Alors c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on s'interroge toujours pour se dire quel est le nouveau mode de financement qu'on peut avoir pour le mouvement sportif. Hein. C'est vrai que quand vous arrivez à rien du tout, c'est extrêmement difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui, le monde sportif doit s'interroger, de se dire mais comment on peut faire peut-être pour fonctionner différemment, avec un peu moins de financement. Mais le financement sera toujours indispensable, mais de voir de quelle manière on peut trouver d'autres sources de financement. C'est vrai qu'on se repose beaucoup sur le mécénat, sur le sponsoring, mais vu la détresse économique, cette voie, elle ne sera pas possible. Donc il faut réfléchir à savoir de quelle manière on peut financer et puis on peut fonctionner différemment, c'est-à-dire... plutôt que faire des déplacements qui vont aller en métropole, dans l'Hexagone, peut-être faire des déplacements qui vont avoir lieu dans le Pacifique, parce que ça reviendra moins cher. Plutôt que de partir avec des équipes entières et puis partir faire des déplacements qui sont longs, revenir sur des déplacements qui sont un peu moins importants. C'est un petit peu donc la philosophie qu'on prend, nous, pour les mini-jeux de Palau.
Alors, justement, exactement, hein, pour les mini-jeux, c'est pas vraiment un scoop. Hein, la plupart des dirigeants, la plupart des ligues qui seront concernés par cette prochaine échéance, ils sont déjà au diapason. Vous allez passer un message, il va falloir évidemment penser avant tout dans ce déplacement, avoir le maximum d'athlètes la jauge minimale. C'est avant ça le message qui va être adressé à la plupart des disciplines.
C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé avec les disciplines qui sont concernées. Si on était parti dans une situation normale, on serait parti avec 220 athlètes parce que c'est le nombre de disciplines qui étaient prévues, qui sont prévues aux Jeux de Palau. Mais on a bien expliqué que d'abord, pour nous, les Jeux de Palau, c'est simplement une étape en vue des Jeux de Tahiti et que les Jeux de Palau devaient rester avant tout on va dire, de la préparation pour Tahiti 2027. Et on reste dans cette philosophie-là. En tant que mouvement sportif, il n'était pas acceptable pour nous que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas présente au mini-jeu de Palau, parce que pour nous, la Nouvelle-Calédonie doit être présente. Le mouvement sportif calédonien doit montrer et donc doit malgré tout se confronter à l'extérieur du territoire. Donc là, on a pris une décision de partir avec une délégation qui sera très réduite, entre 2 et 6 athlètes par discipline. Tout dépendra un petit peu de chacune des disciplines. Mais en tout cas, pour nous, on sera présent et qu'on verra après avec les disciplines comment on peut s'organiser pour augmenter le nombre d'athlètes. Mais en tout cas, pour nous, c'est d'être présent, mais non pas pour automatiquement dire gagner les mini-jeux ou avoir un maximum de médailles, c'est toujours ce qu'on recherche. Mais pour nous, c'est cette première étape est une étape importante dans le cadre donc, de la préparation des Jeux, de la mise en place du travail qui va être mis sur les prochaines années dans l'optique de Tahiti en 2027.
C'est-à-dire que pour ces mini-Jeux de Palau, c'est pas forcément des athlètes confirmés que vous allez envoyer, mais des jeunes qui pourraient performer dans 2 ans et qui ont besoin un petit peu de se frotter à de la compétition internationale.
Là, ça, c'est vraiment une vision, parce qu'en plus, on a l'obligation maintenant sur ces mini-jeux d'avoir dans certaines disciplines des jeunes. Donc, par exemple, pour le basket 3-3, on ne peut avoir que des U23. Sur le triathlon, on est obligé d'avoir un jeune moins de 18 ans et donc dans les équipes. Donc, ça nous oblige automatiquement à le faire. Mais ensuite, la chose qui est importante aussi, c'est se dire qu'on a des athlètes qui sont confirmés aujourd'hui, qui vont avoir au même moment des Jeux, je veux dire des compétitions nationales ou internationales. Donc ça sera après aux ligues de nous dire, là par exemple pour ces Jeux, ça sera plus judicieux pour nous d'envoyer tel athlète plutôt qu'un tel. Et toujours avec cette optique de dire, il est important de nos jeunes athlètes de pouvoir un moment ou un autre avant les grands Jeux, d'être confrontés à une compétition telle que les mini-Jeux. Et c'est véritablement en coordination, en coopération et vraiment un travail de proximité qu'on fera avec les ligues pour savoir de quelle manière et quels sont les athlètes qu'on amènera.
Alors une dernière question, Christophe Dabin, justement vous l'avez souligné, vous en avez touché un mot tout à l'heure, en cette fin d'année, malgré tout ce qui s'est passé sur le territoire, on a vu les exemples de certains de nos représentants, nombreux de nos représentants qui ont été chercher des podiums nationaux, internationaux, des titres de vice-champion du monde, Force Athletic Master, Ironman Master également, voilà de multiples titres qui honorent justement nos athlètes. À quel moment ça peut profiter au mouvement sportif calédonien vis-à-vis de tout ce qui se passe, à quel moment on peut profiter de voir tous nos sportifs qui brillent?
En tout cas, nous, la philosophie que l'on a aujourd'hui, c'est se dire que si on veut reconstruire, le sport va être un des moyens de reconstruire, de recréer des liens, parce que pour nous, le sport est une forme moyen de cohésion sociale. Donc là, aujourd'hui, par rapport à tous nos athlètes qui, malgré tout, ont continué à s'entraîner, ont pu faire des déplacements, ça montre un petit peu l'image que l'on peut avoir en Nouvelle-Calédonie de jeunes. On regarde les U18, les U20 en handball. On regarde Noïc Gariou en paddle. On regarde nos anciens masters qui, eux aussi, ont eu des performances. Maxime Grousset, encore au championnat du monde. Donc tout ça montre aujourd'hui qu'en Nouvelle-Calédonie, on a du potentiel. On a des jeunes qui réussissent, des jeunes qui montrent et qui portent haut et fort les couleurs de la Nouvelle-Calédonie. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut qu'on rebondisse, qu'on rejaillisse, parce qu'aujourd'hui, ça montre qu'en Nouvelle-Calédonie, on est capable de faire des belles choses.
Merci encore, Christophe Dabin, président du CTOS, d'avoir accepté notre invitation ce midi dans le MAC des Sports.
Merci. Et puis, en tout cas, merci pour tout le travail que l'on fait en commun. Je veux dire, les échanges que l'on peut avoir, le fait qu'on parle du sport toutes les semaines, je crois que c'est important parce que le sport est tellement important. Et même tous les jours. Mais surtout le lundi. Et puis, merci du soutien que vous nous apportez régulièrement. Et puis, je profite de l'occasion pour souhaiter à l'ensemble des dirigeants, des bénévoles, des sportifs, une très belle fête de fin d'année et que cette année 2025 qui s'ouvre à chacun d'entre nous soit une année pleine d'espoir et d'espérance.
Christophe Dabin, le président du CTOS, merci beaucoup d'être venu dans ce MAC des Sports du lundi, le dernier de cette année 2024.